Radio sans nous, petit à petit on progresse, mais encore des problèmes d'enregistrement pour cette émission. On n'aura donc pas la discussion autour de la biopolitique, ça sera pour la prochaine émission. En attendant, on va quand même avoir des nouvelles de l'extérieur, des témoignages de confinement, un texte de zététique, et puis l'émission continue, quoi. Voilà, bonne écoute à vous, à tout bientôt. Au final, petit à petit, l'émission se recompose et on va pouvoir écouter l'intervention de Régis, du coup, sur la biopolitique. Régis, à toi.
Bah, eh bien, bonjour. Effectivement, l'actualité du Covid-19 nous amène à réfléchir à un concept important, même s'il est un peu complexe, qui est celui de la biopolitique et puis du fait, du coup, indirectement, de l'état d'urgence sanitaire. Alors, ce concept, il est initié par Foucault, qui a été. Réfléchir au-delà du rapport de pouvoir classique, celui de Marx entre les rapports de classe sociale ou celui des libertaires sur la question de la domination et de la soumission. Et effectivement, Foucault a été traité la question du contrôle des comportements et du contrôle des corps. Je cite Foucault, le pouvoir s'exprime à travers tout un champ matériel complexe où entrent en jeu les ressources naturelles, les produits du travail, leur circulation, l'ampleur du commerce, mais aussi l'aménagement des villes, des routes et des conditions de vie, habitat, alimentation, le nombre d'habitants, leur longévité, leur vigueur et leurs aptitudes au travail. La biopolitique, effectivement, met en pouvoir un tas de domaines et effectivement pose la question de la science, et on le voit très bien aujourd'hui avec Macron et Édouard Philippe. Quand ils interviennent le lundi pour nous donner des nouvelles, en amont, il y a un entretien avec un conseil scientifique et qu'on voit bien que ce conseil scientifique a un pouvoir très important. Alors, rien de nouveau dans les politiques publiques de santé, on a toujours eu ça et je ne prendrai qu'un seul exemple, hein, c'est celui du sida. Effectivement, toutes les mesures ne sont pas mauvaises et là, la demande de protection, l'utilisation du préservatif ou de la capote était loin d'être mauvaise, mais on voit bien qu'indirectement, il y avait aussi des choses qui commençait à se construire, c'est-à-dire une tendance à vouloir normaliser nos vies affectives et amoureuses, et effectivement d'aller défendre une vie amoureuse classique, etc. Donc on voit bien que dans la politique publique de santé, il peut y avoir une chose, mais il peut y avoir une autre qui se cache par derrière et qui va influencer nos vies. Je pense que ça va être le cas du confinement. Le confinement, il est certainement logique et nécessaire. Mais il va falloir prêter attention que ça ne change pas nos comportements sur l'après, dans nos habitudes de vie, etc. Alors, effectivement, si on va sur le Covid-79, c'est un phénomène biosocial. C'est-à-dire que c'est un phénomène politique et pas que sanitaire. Déjà, il interroge pourquoi il est arrivé. Et donc, en ce sens-là, il interroge nos modes de production, il interroge nos mobilités. Mais aussi, et le groupe zététique, il travaillera pour essayer d'analyser cela, c'est-à-dire que la question de l'ampleur de l'épidémie, de son développement, va interroger l'organisation de nos systèmes de soins, va interroger de manière générale l'organisation de nos services publics. Et donc, en soi, effectivement, c'est un phénomène biopolitique qu'il faut qu'on puisse analyser. Alors, sur l'état d'urgence sanitaire, ça pose la question, hein, du rapport à la démocratie, du rapport au contrôle des élus, même s'il n'est déjà pas très satisfaisant en démocratie représentative, mais ça l'interroge, ça interroge l'existence de contre-pouvoirs qu'on réduit. Hein. On réduit le pouvoir de la rue, le pouvoir des corps intermédiaires, à part les scientifiques, effectivement. Et donc, on va avoir des décisions qui vont se prendre de plus en plus, puisque ça a été voté aujourd'hui même. On va avoir des mesures certainement nécessaires, et puis on va en avoir d'autres qui s'interrogent, qui sont complexes. Je pense à la mesure qui est en train d'être prise en Alsace où les plus de 75 ans, il n'y aura plus de réanimation. Hein, on ne les prendra plus en charge parce qu'effectivement, la France va être confrontée à une problématique importante qui est 5 000 lits de réanimation et aujourd'hui 1 700 déjà pris alors qu'on est au début de l'épidémie. Donc on sait très bien qu'on va vivre une crise où on ne pourra pas soigner tout le monde. Mais il va y avoir des mesures coercitives. Alors là aussi, ça s'interroge. Puisqu'on commence déjà à annoncer des peines de prison pour les personnes qui ne respecterait pas complètement le confinement. Et donc là, c'est pas tellement ces mesures en soi, mais c'est surtout les mesures qui vont venir. Et puis d'un état d'urgence sanitaire qui pourrait durer. On a déjà connu l'état d'urgence lié au tourisme, maintenant l'état d'urgence lié au sanitaire. Et on voit bien dans une logique de ne pas écouter la rue quand elle s'exprime, d'une logique de ne pas écouter les corps intermédiaires. Et maintenant de deux états d'urgence en 5 ans, on voit bien qu'on est en train de réduire les espaces de parole, les espaces de contestation, les espaces démocratiques. Et ça peut que nous interroger et attirer un minimum de vigilance.
Nous sommes en guerre.
Sans nous.
Mais l'ennemi est là.
Vous ne me touchez pas!
Mobilisation générale.
Sans nous.
Nous sommes en guerre.
Sans nous.
Radio sans nous.
C'est nous.
Radio sans nous.
Le poisson clown risque de disparaître. Une étude publiée en novembre 2019 dans la revue scientifique Écologie Letters montre que cette espèce n'a pas la capacité de s'adapter aux changements qui se produisent actuellement dans son environnement. Son environnement, c'est l'océan, mais c'est surtout l'anémone de mer, avec laquelle il vit en symbiose. L'un et l'autre cohabitent et en tirent chacun un bénéfice. Dans une anémone vit un poisson clown mâle reproducteur, une femelle et des mâles immatures. Quand la femelle meurt, le mâle reproducteur devient femelle et le plus grand des mâles immatures devient mâle reproducteur. Les chercheurs ont découvert que ce système de reproduction bien particulier rend les poissons clowns très fragiles. Le fait qu'ils se reproduisent au sein de même famille appauvrit leur diversité génétique. C'est-à-dire la variété des caractéristiques transmises au fil des générations. Et moins une espèce possède de diversité génétique, moins elle a la capacité de s'adapter aux modifications de son environnement et de renouveler ses populations. Le poisson clown ne peut donc pas vivre sans son anémone. Or, celle-ci est menacée par la hausse des températures et l'acidification des océans. Pour sauver les poissons clowns, il faut sauver les anémones et donc sauver les océans.
Nous sommes en guerre.
Sans nous.
Mais l'ennemi est là.
Vous ne me touchez pas!
Mobilisation générale.
Sans nous.
Nous sommes en guerre.
Sans nous.
Radio sans nous.
C'est nous.
Radio sans nous.
Alors, je suis soignante dans une résidence-service avec des personnes âgées, voire très âgées, qui sont relativement autonomes dans les actes de la vie quotidienne. On est quand même en service de soins à domicile, à l'intérieur de la résidence. Donc, on est deux aides-soignants le matin et un le soir. On fait des aides à la toilette, des accompagnements, plus des stimulations au repas. Voilà, beaucoup d'écoute aussi. On a la chance d'avoir le temps dans la structure, de pouvoir prendre le temps avec les personnes, du coup de créer un lien un peu plus profond que dans les EHPAD où il faut courir tout le temps. Donc ça c'est important, surtout pendant le confinement en fait, pour maintenir des liens avec les personnes, qu'elles gardent un lien social un petit peu, parce que c'est difficile, là, elles sont isolées. Elles n'ont pas trop le droit aux visites pour le moment, limite au maximum, vraiment que pour les aidants familiaux, les personnes qui ne peuvent pas faire autrement. Sinon, il y a des services qui sont coupés, des services d'aide à domicile. Du coup, c'est nous qui les reprenons sur nos plannings à nous pour ne pas laisser les personnes sans soins, sans aide à la toilette et sans lien social. Ils vivent dans les appartements, donc là, ils sont tous confinés dans les appartements, les parties communes, elles sont fermées, donc le restaurant, la bibliothèque, la salle d'activité. Du coup, l'animatrice un peu au chômage technique. On a fait d'autres tâches, mais du coup, il n'y a plus d'activité. Les repas, ils sont livrés par les agents dans chaque logement. Donc, c'est toute une réorganisation du service avec pas mal de mesures d'hygiène, de gestes barrières, en fait, pour limiter la transmission du virus à l'intérieur de l'établissement.
Comment les résidents y vivent le confinement? J'imagine, vous avez pu en discuter un peu?
Oui, c'est difficile pour beaucoup. qui se retrouvent isolés. Il y en a qui ont peu de visites, qui ont peu de proches qui viennent, et du coup leur leur contact c'est avec d'autres résidents autour, surtout en salle de restauration ou pendant les activités, parce que c'est des personnes qui d'elles-mêmes ne vont pas forcément aller vers les autres, et qui pendant le temps du repas ou des activités créent plus facilement du lien. Donc c'est des personnes qui restent chez elles et qui voient pas beaucoup de monde à part les travailleurs. Du coup c'est difficile. Bon, nous on les encourage hein, à appeler leurs proches, pas hésiter à prendre des nouvelles, et puis avec nous de verbaliser quand ça va pas, de s'autoriser à ressentir des émotions, leurs émotions, de le dire si c'est pas facile. Avant qu'on reste, que tout le monde reste solidaire, que les personnes ne se retrouvent pas trop isolées, quoi. Et pas trop, pas enfermées dans leurs angoisses. Bah, il y en a certains qui sont très, très anxieux, déjà. Une personne chez qui j'interviens tous les jours, ça fait déjà des semaines qu'elle est très, très angoissée par rapport à ça. Dès qu'on tousse un petit peu, qu'on éternue, je vais dire, vous n'avez pas de corona, enfin, ça fait beaucoup stresser, donc là, avec BFM en boucle, ça ne l'aide pas. Donc voilà, on essaie de rassurer aussi les gens, de leur rappeler les gestes de base, toujours. Après, il y a des résidents qui sont aussi autonomes et qui continuent de se voir. On ne peut pas les empêcher non plus, enfin, ils sont chez eux, hein, ils vivent en appartement, c'est des personnes adultes. On ne peut pas empêcher dans les immeubles certains voisins d'aller se voir aussi, quoi. Et puis c'est important, enfin il y en a que je pense qu'ils peuvent vraiment pas rester seuls, vaut mieux qu'ils voient du monde. Donc c'est ça, ça reste des personnes fragiles et ça peut aller vite de tomber en dépression par l'isolement, quoi. Enfin, surtout là il fait beau, rester enfermé par ce beau temps, hein, c'est dur pour beaucoup aussi. On a eu du mal nous à obtenir des masques au début, d'obtenir le port des masques. On disait que seulement si on avait des symptômes. Sauf qu'on sait bien qu'il y a quand même 50% des personnes contaminées qui sont asymptomatiques. Donc on est tous potentiellement porteuses du Covid. Donc voilà, on a fait un peu pression pour pouvoir avoir des masques et travailler dans les conditions de sécurité.
Vous avez fini par en avoir ?
Alors oui, mais avec le peu de stock qu'on a. L'infirmière, elle a pas réussi à en avoir d'autres à la pharmacie parce qu'elle avait déjà eu un lot, dont une boîte qui a été volée au sein de la résidence. Elle fait 50 masques en moins. Ça fait 50 masques en moins, oui, ça fait quelques journées de travail quand même. Du coup, on nous en donne un par jour. Donc c'est limite, on devrait en avoir deux par jour parce que c'est 4 heures qu'on a maximum le masque. C'est le temps de nous de. Voilà, c'est notre temps de travail. Moi, j'interviens pendant 4 heures le matin et 3 heures, 2h45 le soir. Dans l'idéal, il nous faudrait deux masques. Là, c'est un par personne et par jour pour les personnels.
Tu me disais l'autre fois qu'au début, vous n'étiez pas prioritaire pour avoir les masques. Tu peux raconter un peu comment ça s'est passé au début, quand vous avez commencé à demander les masques ?
On nous a dit que c'était d'abord pour les infirmiers, les infirmières libérales, les infirmiers libéraux, les kinés et les médecins. Et on n'est toujours pas sur la liste de personnes considérées comme prioritaires en tant qu'aide-soignante. C'est une liste générale, hein, je crois que c'est dans les recommandations. La pharmacienne de mon quartier me l'a redit hier. On a eu des attestations d'employeurs pour qu'on puisse, nous, gérer du stock. Aller en pharmacie et demander une boîte, et c'est pas possible, en fait, pour les aides-soignantes. Nous, comme on fait du service à domicile, on dépend de l'infirmière, donc normalement c'est l'infirmière de faire ce stock-là. Donc on n'avait pas assez de stock déjà de base, hein, comme c'est une petite structure. Nous, aide-soignante, on est sous la tutelle de l'infirmière, du coup on ne peut pas aller de nous-mêmes chercher des masques. Donc c'est bien l'infirmière coordinatrice de gérer ça. Elle était allée en chercher il y a quelques semaines déjà, en prévision, mais elle n'avait pas eu beaucoup de boîtes parce que la réquisition avait déjà commencé, on n'est pas prioritaire en tant que résident senior. Dans notre collecte de soins, on avait 2-3 masques d'avance, quoi, qui sont là depuis quelques temps déjà, donc j'ai pris ceux-là. L'infirmière, le premier jour, m'a dit, c'est pas la peine, faut l'enlever. Donc, je lui ai expliqué quand même, que je viens de l'extérieur, je prends les transports en commun, je peux éventuellement toucher des choses à l'intérieur des transports, et puis voilà, même si je fais attention, on n'est pas à l'abri. Le lendemain, au début, elle est restée butée là-dessus, on a plusieurs à avoir ses pressions, donc une agent qui a dit que si elle portait pas de masque, elle ne travaillerait pas, parce qu'elle fait le service des repas en appartement, donc elle est quand même au-dessus des assiettes. Elle parle avec les résidents, donc elle est potentiellement porteuse du virus et les résidents aussi. C'était le lendemain de l'annonce du confinement. Entre-temps, il y a eu des nouvelles mesures qui ont dit que quand même, le personnel valait mieux qu'on porte un masque. Mais toujours pour éviter la transmission du personnel vers les résidents. Moi, je pensais pas que ça serait un tel fiasco sur les masques ou quoi. On était assez étonnés de ne pas pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Enfin, devoir faire pression pour avoir quand même accès aux masques. Au début, on les a mis dans un lieu sécurisé suite au vol de la boîte de 50. Et l'infirmière nous les donne le matin de convoute, quoi. Après, là, on est plusieurs à être en arrêt. J'ai une collègue qui s'est mise en arrêt aussi parce que elle est aussi à risque. Elle fait partie des personnes à risque aussi. Donc, il faut qu'elle se protège. Donc, sa médecin l'a mise en arrêt.
Pour vous, ça ne doit pas être une décision simple à prendre de s'arrêter
Non. Non, parce qu'on sait que les personnes ont besoin de nous, que c'est difficile pour elles de voir un turnover, de voir des personnes défiler. Voilà, on est au plus près de leur intimité, hein, qu'on fait des aides à la toilette, des soins quotidiens. C'est pas évident face à des inconnus. Donc s'il y a tous les jours une intérimaire ou un intérimaire différent qui passe, c'est difficile. Il y a d'ailleurs des résidents qui refusent d'être pris en soin par des personnes qu'elles connaissent pas. Il faut discuter avec elles et négocier pour qu'elles acceptent d'avoir de l'aide quand même, parce qu'elles peuvent pas rester sans aide. Il y a des personnes qui ont besoin d'aide à la toilette, à l'habillage, dans la prise de médicaments. Donc là, ils vont devoir faire avec. C'est pas facile. C'est pas facile. Moi, j'ai annoncé aux résidents hier que j'allais m'arrêter un petit peu. C'est un peu triste parce que ils s'habituent à avoir des visages et avoir affaire à nous. On commence à bien les connaître. Donc c'est difficile de les laisser. C'est pas évident. J'aime beaucoup mon travail. Mais je veux pas le faire dans n'importe quelle condition non plus, quoi. Je disais en rigolant qu'on était des VIP. Very important pour les terres. Moi, je sais pas si c'est très. Pas très bien formulé, je sais pas comment on dit en anglais pour les terres. Mais voilà, c'est l'idée. On est là, on nous dit qu'on est important, on dit dans les médias qu'on est des héros, les gens nous remercient, mais ils se rendent pas compte qu'on est en première ligne. Bon, ça serait bien que on soit protégé quand même.
On est là pour quoi ? On est là pour qui ? Dans les magasins, à se prendre la tête, au fond, qu'est-ce qu'on veut ?
Radio sans nous. Radio sans nous. Une radio sans humain, mais pas sans humanité.
Podcast et programme des émissions sur le blog des CMEA covid19.cmea-pdll.org.
Maintenant, la blague de Régis.
Mais c'est pas vraiment une blague, désolé. Ah, c'est un courrier du rectorat de l'Académie de Nantes. Et donc, dans ce courrier envoyé aux enseignants, il y a un point particulier qui est de veiller plus particulièrement aux familles éloignées du numérique et de l'école. Et donc, bien évidemment, pour ces élèves, tout particulièrement l'éducation prioritaire. Donc, on voit qu'il y a une vision de la problème numérique où il se situe, des documents pédagogiques de papier doivent être préparés et remis aux familles. Mais bien évidemment, la question, c'est où les remettre. Et donc, comme écrit dans le courrier, comme l'accès à une école et un établissement scolaire n'entre pas dans les justificatifs de déplacement, je suggère aux enseignants d'utiliser un commerce de proximité autorisé comme point relais où les familles concernées pourraient retirer et rendre documents, devoirs et livres. Voilà, donc c'est un petit courrier sympathique. Il va falloir donner son rendez-vous au Super U ou je sais pas où pour remettre les devoirs et rencontrer les familles. Donc voilà où on est le rectorat dans ses conseils.
Eh bien, nous allons enchaîner cette petite émission sur Radio Sans Nous avec la lecture d'un texte autour des questions des traitements envisagés et des expérimentations de traitement qui va nous être faite par Lola. Et c'est un texte qui a été rédigé par des personnes du groupe zététique des CMAM et de Pays de la Loire. On rappelle que la zététique, c'est un peu une méthode d'entraînement à l'esprit critique et que c'est une manière d'analyser le monde sans croire tout ce qu'on nous met sous notre nez.
Radio sans nous.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Dans quelques minutes, votre journal. J'espère que vous aimerez ce nouveau journal. Plus d'images, plus de dialogues, plus de reportages directs. Nous avons pris
des dispositions pour que le journal devienne un miroir qui se promène sur toutes les routes de France et du monde.
Radio sans nous. Radio without us. Radio
bébé. A priori, ça concerne toute personne ayant des mains, un nez et une bouche.
C'est pour toi.
Et ça y est, cette fois c'est parti. Alors, pourquoi le traitement du coronavirus à la chloroquine fait-il débat? L'essai chinois et sa publication. Le 18 février, une équipe chinoise publie dans la revue scientifique Bioscience Trends l'annonce de résultats au-delà de l'effet placebo dans le traitement du Covid-19 par la chloroquine, un antipaludique bien connu. Aussitôt, une série de réserves sont avancées dans le reste de la communauté scientifique. La revue est qualifiée de plutôt marginale, la publication n'est qu'un communiqué qui ne nous donne pas assez d'éléments quant aux détails du protocole et des résultats, et la chloroquine a déjà été avancée pour traiter le SRAS, le MERS, d'autres épidémies dues à des coronavirus sans succès. Les scientifiques cherchent à relativiser l'effet remède miracle. L'essai de l'IHU de Marseille. L'Institut Hospitalo-Universitaire, IHU, Méditerranée Infection, via le professeur Didier Raoult, fait la demande, suite aux publications chinoises, de mener une étude clinique. Il obtient l'autorisation. Il propose d'appliquer le traitement suivant sur 24 patients volontaires. Hydroxychloroquine associée pour certains patients-patientes à un antibiotique, l'azithromycine. La chloroquine est un antipaludique produit depuis plus de 70 ans. L'hydroxychloroquine en est un dérivé inventé par le laboratoire du professeur Raoult. C'est également un antipaludique qui a quelques autres applications, notamment antivirales. Il s'appuie sur le fait qu'on peut mesurer la contagiosité d'un malade en fonction de sa charge virale, c'est-à-dire la quantité de répliques du virus présent dans son organisme. Il avance également que l'ensemble des morts mortes de l'épidémie sont encore porteurs-porteuses du virus lorsqu'il et elle meurt. L'enjeu serait donc de faire diminuer la charge virale pour guérir les patients. C'est donc l'indicateur qu'il retient pour mesurer la réussite du traitement. Il associe dans certains cas à l'hydroxychloroquine un antibiotique. Il défend qu'une infection virale n'est pas forcément seulement virale et qu'on observe notamment dans les maladies pulmonaires virales des pneumopathies liées à une infection bactérienne contre laquelle luttera l'antibiotique. Les résultats sont comparés aux charges virales de patients Covid-19 des hôpitaux de Nice et d'Avignon qui ne suivent pas ce protocole de traitement. Il prépublie les résultats de l'essai clinique le 16 mars via une vidéo sur la plateforme YouTube. On peut trouver cette vidéo, on vous donne le lien sur le site des CMR. Qui est le professeur Didier Raoult? C'est un infectiologue de renommée internationale. Il dirige l'IHU Méditerranée Infection à Marseille et fait partie des personnes qui publient le plus en infectiologie et microbiologie au monde. Il est classé parmi les 10 chercheurs les plus cités au monde selon les revues Science et Nature. Il faisait partie du conseil scientifique qui conseille le gouvernement pendant l'épidémie de SARS-CoV-2 jusqu'au 14 mars. Il est également connu pour un certain nombre de positions à l'encontre du consensus scientifique. Les arguments qu'il avance en faveur du traitement. Ce traitement est peu cher à produire et déjà disponible en stock important. Il est également bien connu, ce qui limite les risques liés à l'usage d'un nouveau médicament en termes de contre-indications et d'effets indésirables inconnus. Les résultats sont annoncés comme prometteurs. La longueur de la charge virale, c'est-à-dire la durée pendant laquelle les patients sont contagieux, est en moyenne de 20 jours en l'état actuel des connaissances. Au bout de 6 jours, les patients-patientes n'ayant pas reçu de plaquenil, nom sous lequel l'hydroxychloroquine est commercialisée, sont à 90% encore porteurs de charge virale. Pour les patients traités, seuls 25% sont encore porteurs de charge virale dans la même durée. Il annonce des résultats encore plus impressionnants pour les patients-patientes traités en parallèle avec un antibiotique. Les critiques qui lui sont faites. Elles portent d'abord sur la méthode de publication. Le professeur Raoult annonce les résultats sans beaucoup de nuances, via une vidéo YouTube. Habituellement, le processus de publication est le suivant. On propose les résultats de l'essai à un journal scientifique à comité de lecture, pour une relecture par des pairs, c'est-à-dire d'autres scientifiques qui travaillent dans le même domaine. Quelques semaines, voire mois plus tard, une publication a lieu ou non dans cette revue. En parallèle, les résultats peuvent être prépubliés sur des plateformes de prépublication qui visent à une relecture plus large et à encourager la réplication plus rapide des expériences pour appuyer ou invalider les hypothèses. L'utilisation de ce canal se justifie notamment dans des moments d'urgence. La publication sur un canal large comme YouTube, suivie d'une annonce spectaculaire dans différents médias d'un traitement efficace contre le coronavirus, est très critiquée, en cela que le niveau de preuve, de solidité des résultats est encore insuffisant pour faire une telle annonce. D'autre part, le protocole d'essai clinique n'a pas été fait en double aveugle, ni même en aveugle. Les patients-patientes traités à Marseille savaient qu'ils et elles recevaient un traitement expérimental. Les autres savaient qu'ils et elles n'en recevaient pas. Les soignants-soignantes savaient s'ils administraient ou non le traitement. Ainsi, on ne mesure pas l'écart à un effet placebo, ni la part de charge intentionnelle des soignants. La taille de l'échantillon, 24 patients, recevant deux versions différentes du traitement, ne semble pas autoriser un tel triomphalisme dans l'annonce d'un remède contre le coronavirus. Les résultats n'étant pas publiés en détail, on ne sait pas pour l'instant quel était l'état des différents patients-patientes avant traitement, malades depuis combien de temps, en état sévère, grave ou en rémission, etc. Enfin, le professeur Raoult a été critiqué pour d'autres positions par le passé. Il avance notamment qu'il n'a pas réellement de problèmes liés aux bactéries multirésistantes dans les traitements aux antibiotiques. Et en dehors de son champ de recherche, il a plusieurs fois dit douter de la réalité du réchauffement climatique. Par exemple, dans Le Point, où il a une chronique, il déclarait en juin 2014 « Le réchauffement climatique est incertain et la responsabilité de l'homme discutable ». Si ses précédentes positions à rebours du reste de la communauté scientifique ne mettent pas en cause ses travaux actuels en tant que tels, cela peut jouer dans la réception qui est faite à ces annonces spectaculaires. La conséquence d'une telle annonce est que les pharmacies ont vu leur stock de Plaquenil fondre comme neige au soleil. Si le traitement est bien connu de spécialistes, il demande tout de même un suivi médical pour son administration. Mal dosé, il est létal. On peut donc craindre les risques d'une automédication. La suite. Ces résultats vont faire l'objet de tentatives de reproduction dans différents hôpitaux, en France, en Chine et ailleurs. En Chine, près d'une vingtaine d'essais cliniques sont en cours pour explorer l'efficacité de cette molécule ou d'un analogue, l'hydroxychloroquine, Plaquenil. Ces tentatives, faites par des équipes indépendantes de celles de Didier Raoult, et pour certaines utilisant un protocole adapté pour isoler l'effet placebo, devraient rapidement confirmer, nuancer ou infirmer les résultats de l'IHU de Marseille. En complément, on peut écouter Nicolas Martin, journaliste à la méthode scientifique sur France Culture, qui en fait une très bonne brève de 5 minutes. On vous glissera le lien dans le site des CMR.
Merci, hein. Merci pour cette lecture. Du coup, tu dis cet article, Lola, on peut le trouver sur le site des CNA, Covid-19.
Oui.
Aïe.
Bon, en tout cas, le confinement, il réactive le groupe diététique. Hein. Il n'a jamais été aussi actif. Hein. C'est d'actualité, quoi.
Bonjour, on n'a pas encore entendu ma voix.
Salut, c'est bien.
Oui, coucou. J'ai pas entendu ce que vous venez tout juste de dire, parce que j'étais en train de brancher mon casque.
Régis faisait des blagues douteuses sur le groupe zététique.
Ah, oh non, je disais qu'il était très actif depuis le confinement.
Oui, carrément, il a jamais eu autant d'activité. peut-être, moi je voulais préciser un peu sur comment cet article il avait été écrit, si c'est possible.
Vas-y. Ouais, carrément.
Du coup, pour dire, en gros, c'est des personnes du groupe zététique qui ont fait un peu des recherches, parce qu'il y a la chloroquine là, qui est apparue dans les médias, comme une possible solution à la pandémie. Et les articles, ils sont pas lâchés au pif, ils sont relus déjà par les gens du groupe zététique avec les outils d'esprit critique et... une petite maîtrise relative de la méthode scientifique. Parce qu'il faut savoir que dans le groupe, on n'est pas ni des chercheurs-chercheuses, ni des experts-expertes. Mais on a 2-3 outils pour chercher et on a aussi contacté des gens, des soignants-soignantes. Enfin voilà, on essaye de choper aussi des gens qui ont la méthode.
Célia.
Je n'entends plus. Alors,
ouais, moi non plus, j'entends plus. Et j'ai l'impression qu'à la radio, on n'entend plus. Célia, on t'a perdu.
Perdu, Célia.
Oui, parce qu'en fait, on est toujours pareil hein, sur notre petit plateau internet où on est 4-5, mais on n'est pas dans les mêmes lieux. Célia, où es-tu? Eh ben, dans notre superbe improvisation, on va mettre un petit jingle et on revient tout de suite. Attention, c'est parti le jingle.
Radio sans nous. Donne-moi ta main, prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie.
Vous écoutez Radio sans nous. Radio sans nous, la radio qui émet en direct, mais pas du même salon. C'est une radio qui fonctionne grâce à un salon virtuel. On n'est pas ensemble, mais on essaye de parler ensemble dans vos oreilles.
Mais oui, l'ombre est finie.
Radio Sans Nom, une radio créée par des militants et des militantes des CMA Pays de la Loire, qui est ouverte à toutes les personnes qui auraient envie de nous envoyer du son. Vous pouvez nous écrire sur radio.sansnous, S-A-N-S-N-O-U-S, at CEMEA-PDLL, comme pays de la Loire.org. Vous pouvez discuter avec nous sur notre chat, sur chat comme un chat, chat.combit.net, sur le canal hashtag Radio Sans Nous.
On s'amusera, quoi qu'il advienne, mais oui, l'école est finie.
Retrouvez toutes les informations et les podcasts de Radio Sans Nous sur covid19.cma-pdll.org. Tous les soirs à 20h, on vous lit une histoire et on vous présente un jeu. Le mardi et le vendredi à 19h, on chante avec vous. Et le jeudi et le dimanche à 16h, c'est la tournée générale. On vous invite à nous écouter pour notre émission généraliste. Tous les midis, c'est la criée. On crie et on lit des textes, des petits messages que vous nous auriez envoyés sur le chat ou par mail. Et puis on enchaîne avec un livre main, une histoire de vie qui nous est contée dans nos oreilles. Et le jeudi soir, tous les jeudis soirs sur Radio Sans Nous, c'est scène ouverte. Bientôt, de nouvelles programmations sur covid19.cema-pdll.org.
Poursuivre cette émission et la terminer en vous donnant un peu des petites infos. On ajoute à notre programme hebdomadaire un petit rendez-vous tous les midis où on va faire une criée pour du monde sans corona et puis ensuite on vous passera des sons qui racontent des petits extraits d'histoires de vie sous plusieurs formes. Du coup, on va avoir des livres humains. Les livres humains, c'est une démarche d'éducation populaire qui vise à accompagner les personnes à raconter un moment de leur vie ou quelque chose qui s'est passé dans leur vie et à le mettre en mots pour le raconter à des personnes qui viennent écouter une personne se livrer sur un moment particulier de sa vie ou une histoire particulière, plutôt souvent autour des rapports de domination. Et puis on vous passera aussi, on va commencer aujourd'hui, un des extraits d'une conférence populaire qui avait été créée pour les 80 ans des CMA au CMA Pays de la Loire et elle va s'introduire toute seule puisque aujourd'hui on va vous passer le premier tableau de la conférence populaire qui explique ce que c'est qu'une conférence populaire. Et petite nouveauté, nous lançons le jeudi une scène ouverte, une petite scène ouverte sur Radio Sans Nous le jeudi soir pour pouvoir triper, à s'envoyer de la musique, tout ça. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des sons de musique, blagues, lectures sur radio.sansnous@cema-pdll.org. Voilà, voilà.
Alors vous avez donc assisté à une conférence d'un genre un peu particulier. On l'a dit sous forme de clin d'œil, une conférence populaire. En fait, on n'y avait pas vraiment réfléchi, mais en fait, je crois que ça nous va bien, le titre conférence populaire. Pourquoi conférence populaire? Déjà parce que ce soir, c'est une conférence participative, interactive. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée, si notre truc il fonctionne bien, c'est que le public il parle plus de la moitié du temps. Nous, on va être des espèces d'inducteurs, on va partager des choses, mais c'est vous qui allez prendre à un moment donné le pouvoir dans cette soirée et qui allez vous exprimer. Donc populaire parce qu'effectivement la parole va vous appartenir, et puis populaire parce que ce soir nous faisons le pari des savoirs populaires. C'est-à-dire que ça ne va pas être une conférence classique où on y va pour entendre des savoirs théoriques, universitaires, conceptuels, etc. Non, ce soir, c'est place au savoir empirique, au savoir lié à nos expériences de vie, lié à nos récits de vie. Et donc, on va vous partager nos anecdotes à nous. Alors, des anecdotes qui ne sont pas anecdotiques. C'est vrai qu'une anecdote bien choisie, c'est un condensé de sens. Hein, et qu'une anecdote n'est pas anecdotique, elle dit beaucoup de choses sur... sur une possible analyse politique future. Et on a pensé cette conférence à travers 5 tableaux, comme autant de raisons qui fait qu'on s'engage. Et donc on va prendre les tableaux les uns après les autres, on va en présenter un premier, nous on va vous faire partager nos anecdotes sur ce tableau, et ensuite on va proposer que ce soit vous qui puissiez nous raconter des anecdotes en lien avec ce tableau. Donc en fait, on va vous inviter à venir sur le côté, pour ceux et celles qui souhaitent prendre la parole. Il va y avoir une file indienne qui va se constituer, qu'on espère la plus longue possible. Et là, vous allez pouvoir, en une minute, deux minutes, trois minutes, nous faire partager ce petit bout d'histoire qui vient parler de la thématique qui était interrogée par le tableau. Et ce premier tableau, le premier tableau que nous avons décidé de vous présenter, c'est le choix du prénom. Pourquoi est-ce que je m'appelle comme cela? Et plus globalement, le contexte familial qui était le mien quand j'arrive au monde. Est-ce qu'il y avait déjà des attentes qui pesaient sur moi? Est-ce qu'il y avait déjà un contexte politique familial? Et aussi une question, est-ce que chez moi, on parlait politique?
Moi, je m'appelle Samuel, mais je ne sais pas pourquoi je m'appelle Samuel. Par contre, ce que je sais, c'est que je n'étais pas prévu. Et je suis plutôt une histoire d'imprévu. Au début des années 70, mes parents, alors mon père était délégué syndical à la CFDT en Normandie dans l'enseignement privé, et ma mère, elle était suppléante d'un délégué syndical en Loire-Atlantique, toujours à la CFDT, toujours dans l'enseignement privé. Et il y avait une réunion nationale où étaient conviées que les personnes qui étaient déléguées syndicales. Sauf que la veille, le délégué de Loire-Atlantique est tombé malade. Du coup, ma mère a été obligée de le remplacer au pied levé. Et c'est là qu'ils se sont rencontrés. Donc oui, chez moi, on parlait politique. On parlait politique et rapidement, j'ai vu l'impact que ça pouvait avoir sur ma vie. Moi, j'ai grandi dans un petit bled à 30 bornes au sud de Nantes, à la frontière vendéenne. Alors pas en Vendée, mais c'était tout comme. Tout comme un maire notable de droite, qui est là depuis plusieurs générations. Une seule liste, de droite du coup. Et du coup, c'était pas très facile d'être intégré dans cette commune, parce que bah, nous, ça faisait pas 3, 4, 5, 6, 7, 8 générations. Donc on n'était pas considéré comme de la commune. Alors mon père, il s'est dit, bah tiens, j'ai qu'à monter une liste d'opposition, histoire de faciliter un peu l'intégration dans la commune, c'est sûr, bah voilà, tu essaies de casser un peu les traditions, c'est hyper aidant. Et puis il s'est dit, bah tiens, je vais aller encore plus loin, je vais même me mettre dans une lutte un peu contre la conseillère cantonale de ce canton de l'époque, qui était de droite bien sûr, qui était une notable aussi du coin depuis des années et des années, et au point de devenir presque son ennemi juré. Pour illustrer ça, à tel point il y avait une haine entre eux et comment ça se caractérisait, beaucoup plus tard, alors que lui était déjà décédé, le soir d'une élection cantonale, ça s'appelait cantonale à l'époque, on a reçu plein de coups de fil, parce que la mère grande mère, comme on l'appelait à l'époque, avait perdu, après plus de 30 ans de présidence du canton, de ce canton-là. Et du coup, les gens appelaient, les uns après les autres, en disant bah, c'est un peu sa victoire à lui aussi. Hein. Voilà, donc oui, on parlait politique.
Je suis née à la maternité d'Angers en 1950. Mes parents étaient assez âgés, j'avais 45 ans. Et j'avais des grands frères et sœurs qui avaient respectivement 12 16 et 18 ans de plus que moi. En quelque sorte, je pourrais dire que j'ai vécu avec trois mères et deux pères, ce qui était beaucoup pour le bébé et la petite fille que j'étais. Donc chez moi, je ne sais pas pourquoi on m'a prénommée Marie-Christine, mais en même temps, Je pense qu'il y avait quelque chose de la religion qui était là et très prégnant. Alors effectivement, ma grand-mère s'appelle Marie, ma mère aussi s'appelle Marie, mes deux grands-pères Joseph. Je pense qu'il y a un lien direct avec ça. Lorsque j'ai posé la question, on m'a dit à Christine, c'est quelque chose qui se racontait beaucoup à l'époque dans cette année-là. Donc voilà, pourquoi Christine ? Après Marie, non, on ne m'a rien dit de ça. En tous les cas, je préfère vous dire que je m'appelle Chris, en fait. Et je préfère qu'on m'appelle Chris. Chez moi, on ne parlait pas vraiment politique. Ou plutôt, moi, je n'étais pas en mesure d'entendre ce qui se racontait à l'époque sur la politique. Parce que mes parents avaient beaucoup de souvenirs de la Deuxième Guerre mondiale et donc racontaient beaucoup de choses autour de cette histoire-là. Et en même temps, moi, j'avais des noms comme ça qui passaient. J'ai entendu parler de Léon Blum, j'ai entendu parler de Pétain et ça ne semblait pas drôle. Et puis après, je me suis rendu compte peut-être qu'au travers de ce qui se disait à la maison, il y avait quelque chose avec l'histoire de De Gaulle et ça ne semblait pas être notre ami. Et mon père parlait de la gauche, la gauche, la gauche.
Moi, j'ai un prénom en trois syllabes, comme mes sœurs. Parce que mon nom de famille, par contre, il n'a qu'une seule syllabe. Donc ça, c'était un savant calcul de mes parents. Pour qu'on puisse avoir un état civil audible et, je pense, assez harmonieux. Il se trouve qu'à ma naissance, je n'étais pas toute seule. Je venais de passer 9 mois dans ce que j'appelle ma première colocation, c'est-à-dire que j'ai partagé le ventre de ma mère pendant 9 mois avec mes deux sœurs. Et donc, il a fallu choisir 3 prénoms différents pour 3 filles, donc avec des prénoms de 3 syllabes, qui aient chacun un son différent à la fin. Ce n'était pas facile. Moi, je m'appelle Olivia, et mes sœurs s'appellent Émilie et Dorothée. Quand on est enfant, des fois, on subit des moqueries par rapport à son prénom ou aussi par rapport à son nom. Moi, mon nom de famille, c'est Go. Et la moquerie, c'était Gogol. C'était facile. L'avantage qu'on a, par contre, c'est que quand on arrive dans une école et qu'on est 3, ben, on a vite fait de faire une petite bande. Et en général, on ne se fait pas trop emmerder trop longtemps. Chez moi, on parlait politique. On parlait politique en général à table, on échangeait des idées. J'ai toujours entendu mes parents écouter les informations, commenter l'actualité. Quand il y avait de la famille à manger le soir ou des amis, en général, les discussions partaient sur de la politique. Et puis nous, on allait se coucher, on n'entendait pas la fin des conversations. Mais des fois, ça nous réveillait, ça nous relevait même. Et puis le lendemain matin, on allait voir notre mère, on lui demandait « Mais pourquoi est-ce que vous vous engueulez quand vous disputez ?» Et ma mère me répondait toujours « Ah, mais on ne s'engueule pas, on parle fort. » Et vous parliez de quoi ? De politique. Donc j'ai appris comme ça qu'en fait la politique, ça se discute fort. Donc quand j'ai eu l'âge moi aussi d'avoir des conversations politiques avec mes parents, en général à table le soir, et ben du coup j'ai appris à parler fort et parfois il y avait quelques chaises qui volaient, quelques portes qui claquaient. En tout cas on a toujours discuté politique avec mes parents, mais ils ont toujours tenu à ne pas me dire pour qui ils votaient. Ils m'avaient dit je te dirai pour qui je vote quand tu auras 18 ans, que toi aussi tu auras l'âge de voter, j'ai pas envie de t'influencer, tu te feras ta propre opinion. Le problème, c'est que je crois qu'ils ont oublié qu'ils avaient tellement bien fêté en 88 la réélection de Mitterrand que j'avais quand même quelques pistes.
Je sais que je m'appelle Cédric, mais je ne sais pas trop pourquoi. En réfléchissant un peu, je connais des Cédric qui ont mon âge. Je n'en connais pas des plus vieux, je n'en connais pas des plus jeunes. Je me dis que ça doit être une histoire de mode, tout ça. Ce que je sais, en revanche, c'est que l'année de ma gestation, quand j'étais dans le ventre de ma maman, elle a passé une quinzaine de jours assise sur son fauteuil devant Roland Garros en 1983. C'était l'année de la victoire de Yannick Noah. Je crois qu'elle avait fêté aussi les 1981, la victoire de Mitterrand. J'ai l'impression que c'est une suite logique. Elle a projeté sur moi, certes, des valeurs de solidarité, d'amour. De devoir accompli, elle voulait que je sois bien intégré dans la société, que je sois dans l'air du temps, je crois. Chez moi, ça parlait politique aussi, et notamment dans les repas de famille. Les repas de famille paternels. Là où, chez mes grands-parents, il y avait mon grand-père, droite profonde, artisan, commerçant, les frontières, enfin des choses autour de ça. Il y avait aussi mon oncle, grand exploitant agricole, ou comptable des grands exploitants agricoles, droite libérale, sarkozyste. Et il y avait mon père, qui avait voté Mitterrand en 81, mais qui était de plus en plus critique sur le socialisme, sur le parti socialiste, socialisme, et qui, tant bien que mal, essayait de mettre un peu le bordel dans ses repas de famille. Moi, j'avais 10 ans, j'étais assez admiratif de ce qu'il faisait, mais je ne pouvais pas trop la ramener, quoi. Et puis, il y avait ma grand-mère derrière qui disait « Calmez-vous, les enfants !» J'avais toujours l'impression que ça allait être la destruction familiale. Et puis, moi, j'ai grandi. Et puis, les repas de famille se sont passés avec mes deux parents. Et puis, moi, j'ai lu, j'ai rencontré d'autres personnes. Et l'attitude un peu réactionnaire, ou plutôt en réaction avec ce qu'ils disaient, c'est moi qui l'avais, avec mes parents qui avaient revoté socialiste depuis 2002. Et j'étais dans la position un peu de mon père se battait contre des gens de droite. Et depuis, je ne parle plus trop politique avec mes parents parce qu'ils me considèrent un peu trop radical.
Je nais après un frère et une sœur qui ont 2 et 4 ans de plus que moi. De mon prénom, je sais que mes parents voulaient qu'il ne soit pas une référence à un personnage historique ou une référence à quelqu'un qu'ils aient connu. Bref, qu'il n'y ait pas trop de sens, que ce ne soit pas trop porteur d'autre chose que de moi. Du coup, ils m'ont appelée Prune. Je m'appelle Prune de la Monneraie. En 4 mots. Du coup, ma vie avec mon nom, ça se découpe à peu près en 2 phases. La première qui va de ma maternelle à la fin de mon collège, on va se foutre de mon prénom. Et la deuxième, qui commence au début de mon lycée et qui n'est pas finie, on va se foutre de mon nom de famille. Chez moi, ça parlait politique. Beaucoup. Ça criait aussi un peu. Ça parlait politique entre les parents et leurs amis, mais aussi très très vite entre nous et les enfants de leurs amis. Et ils ont toujours eu cette volonté de nous inclure dans les conversations, dès très vite. D'ailleurs, en 2002, quand on se rend compte que le second tour va être Chirac face à Le Pen, c'est l'état de guerre à la maison. J'ai 4 ans et on se retrouve avec des copains-copines du village, leurs parents et les miens, à faire un atelier pancarte. Je pense pas qu'on faisait des banderoles, mais en tout cas des pancartes. Je sais pas trop ce que je pouvais mettre dessus parce que je devais pas savoir écrire. Mais on fait nos premières pancartes et on se prépare pour aller à Angers. On est dans la campagne à 30 bornes. Du coup, on va à Angers. Et on fait ma première grosse manif. Ça me paraissait absolument gigantesque. Il y avait plein de monde. Avec du recul, je me rends compte que c'était surtout moi qui étais très petite.
Eh bien, moi, je m'appelle Anthony. Et c'est le prénom d'un prince. En fait, Anthony, c'est le prénom du prince dans le dessin animé Candy. Quelques mois avant ma naissance, mon frère de 9 ans, mon aîné, il regardait Récréa 2, présenté par Dorothée, et puis il regardait Candy. Et il allait trouver ma mère qui se trouvait dans la cuisine, et il lui a dit « J'aimerais que mon petit frère, il s'appelle Anthony. » Et mes parents m'ont appelé Anthony en référence au dessin animé Candy. Alors moi, j'ai failli ne pas être de ce monde, hein. Parce qu'en fait, plusieurs mois avant ma naissance, ma mère a reçu un coup de téléphone. Un coup de téléphone de son médecin qui lui a dit « Madame Pouliquin, c'est mon nom, vous êtes enceinte. » Et là, ça s'est bousculé grave dans la tête de ma mère, mais aussi dans la tête de mon père. Parce qu'ils avaient déjà 2 enfants, et puis surtout, ils projetaient d'acheter le bar tabac qui était en train de se libérer sur leur petite commune. Et là, ils ont dit que ça n'allait pas le faire. Enfin, 3 enfants plus un bar tabac à gérer, ça devenait mission impossible. Et donc, pendant plusieurs jours, ils vont se poser une question absolument décisive, enfin, surtout pour moi. Est-ce qu'ils me gardent ou est-ce qu'ils achètent le bar tabac? Ils vont finir par me garder. Alors, chez moi, on parlait politique. En fait, mes parents, ils étaient de gauche. Ils étaient socialistes. Ils étaient mitterrandolâtres. Mais quand je dis Mitterrandolate, c'est Mitterrandolate, quoi. Je veux dire, en 81, après la victoire de Mitterrand au premier tour de... Enfin, le 21 mai, non ? Enfin, voilà, après la victoire de Mitterrand en 81, ils ont installé une assiette à l'effigie de Mitterrand dans ma chambre à coucher de bébé. J'avais 15 mois, c'est Guinness Book. Hein. C'est-à-dire, ça faisait de moi le plus jeune supporter de Mitterrand. Et ça va durer comme ça pendant plusieurs années. Je me souviens qu'en 88, hein, je suis vert de rage de ne pas pouvoir participer à la réélection de François Mitterrand, de ne pas avoir le droit de voter. En 98, je suis en âge de voter. Et les élections qui vont suivre, Mitterrand n'est plus candidat. Bon, il a une bonne excuse, il est mort. Hein. Mais pour moi, le temps a passé. Et peut-être que la rose a un peu fané. Et même Mitterrand vivant, même Mitterrand candidat, je ne suis pas sûr que j'aurais eu encore envie de voter pour lui. C'est le tableau sur le projet familial, sur les prénoms et sur le contexte un peu politique dans la famille. Et donc la proposition qu'on vous fait, c'est de vous jouer au jeu des anecdotes et vous aussi d'accepter de venir nous raconter un petit bout de truc, peut-être sur l'histoire de votre prénom, sur est-ce qu'on parlait politique chez vous, qu'est-ce que vous vous souvenez de ce contexte familial, ou ce qu'on vous a raconté lorsque vous arrivez dans ce monde. Alors, on va vous laisser évidemment quelques secondes pour vous dessiner, mais on va inviter ceux et celles qui le veulent, qui acceptent de jouer le jeu, à venir sur le côté pour nous raconter à votre tour vos histoires. Alors, on sait bien que dans nos histoires singulières, en fait, il y a un bout d'universel. Et probablement, quand vous nous avez écouté, vous allez repenser vous-même à certaines choses, vous allez poser des questions, et que vous mourrez d'envie de nous les faire partager. Et donc, c'est le moment. Et donc, voilà, bienvenue sur, avec nous. Regardez, on fait un petit comité d'accueil. Bienvenue pour raconter ces quelques bouts d'anecdotes sur votre enfance et la famille. Alors, attends, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent nous rejoindre ? Ouais ? Bienvenue. Des personnes qui hésitent. C'est encore le moment, ne vous inquiétez pas. Eh bien, c'est à toi.
Moi, j'ai été élevée dans une famille de droite. De droite méritocratique. Il fallait travailler pour réussir. Je ne sais pas pourquoi je m'appelle Mathilde. Je suis née, je ne sais toujours pas pourquoi. J'ai une explication qui fait que stratégiquement, c'était le bon moment pour faire un enfant. Ça allait éviter de payer des impôts. Formidable quand pendant toute sa jeunesse, on a entendu qu'il y avait des gens qui faisaient des enfants pour toucher les thunes de la CAF. Et qu'à 30 ans, tu réfléchis et tu te dis que toi, tu as été faite pour éviter de payer des impôts. Et bien là, tu te dis que peut-être ton chemin politique parcouru, c'était plutôt pas trop mal, en fait. Donc oui, toute ma jeunesse, on m'a parlé politique et on m'a dit que j'allais travailler parce que c'était important, mais qu'il fallait quand même bien travailler pour soi parce que les autres, bon, voilà. Voilà, je sais pas pourquoi je m'appelle Mathilde, je sais que j'ai failli m'appeler Justine, mais que j'ai échappé au prénom de première part déductible.
Moi, j'ai été fabriqué dans une auberge de jeunesse, dans les Cévennes. Je sais pas si c'était un acte politique. Très vite, ça a été un acte de lâcheté de mon père, qui est parti assez vite. Ça a laissé du coup de la place à ma mère pour choisir mon prénom, pour aussi m'éduquer, pour m'emmener aussi dans plein de choses. Mon prénom, il a une connotation étrangère, hein. Il vient d'Espagne, je m'appelle Esteban du coup. Et c'est le prénom de mon grand-père, bon, en tout cas du grand-père de ma mère, donc de mon arrière-grand-père. Et ce prénom-là, il vient aussi de discussions non-dites qu'il y a eu à la maison quand j'étais petit sur la guerre d'Espagne et sur la partie de ma famille, de ma mère, qui a fui cette guerre d'Espagne, cette guerre civile espagnole, et qui arrive en France, dans des conditions que certains exilés peuvent vivre encore aujourd'hui. Donc voilà. Et comme dans beaucoup de familles d'exilés, bah, en fait, on en parlait sans en parler dans les familles de cette histoire-là. C'était plutôt quelque chose de non-dit, ma grand-mère n'en parlait jamais. En tout cas, tout le monde se disait communiste, anarchiste, fils de communiste, d'anarchiste, en Espagne, ça. Et pourtant, on ne parlait jamais du fondement de ces mouvements-là, ni de ce qui s'était passé réellement en Espagne. Et donc voilà, il a fallu attendre que je grandisse et que je fasse ma place aussi un peu dans cette société et que j'aille moi-même voir ce qui est passé en Espagne, essayer de comprendre tout ça et de faire des recherches un petit peu à mes 18 ou 19 ans, je crois. Je suis parti là-bas et voilà, ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses, sur mon histoire. Sur pourquoi je m'appelle Esteban.
Eh bien, merci beaucoup. Je propose qu'on les applaudisse parce que nous, en fait, on a préparé. Et tout, c'est l'info.
On est là pour quoi ? On est là pour qui ? Dans les magasins, à se prendre la tête. Au fond, qu'est-ce qu'on veut ? Au fond, qu'est-ce qu'on cherche ?
Qu'est-ce qu'on cherche ?
Quand on se prend la tête, mais qu'est-ce qu'on attend ?
Des bisous. Radio. Sans. Nous. Radio sans nous. Une radio sans humain. Mais pas sans humanité.
Podcast et programme des émissions sur le blog des CMA covid19.cma-pdll.org.
Radio sans nous. Radio sans nous. Radio sans nous. Radio sans nous.
Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie.
Vous écoutez Radio sans nous. Radio sans nous, la radio qui émet en direct, mais pas du même salon. C'est une radio qui fonctionne grâce à un salon virtuel. On n'est pas ensemble, mais on essaye de parler ensemble dans vos oreilles.
Mais oui, libre et fini.
Radio sans nous, une radio créée par des militants et des militantes des CMA Pays de la Loire qui est ouverte à toutes les personnes qui auraient envie de nous envoyer du son. Vous pouvez nous écrire sur radio.sansnous, S-A-N-S-N-O-U-S, at CEMEA-PDLL, comme pays de la Loire.org. Vous pouvez discuter avec nous sur notre chat, sur chat comme un chat, chat.koumbit.net, sur le canal hashtag Radio sans nous.
On s'amusera, quoi qu'il advienne, mais oui, l'école est finie.
Retrouvez toutes les informations et les podcasts de Radio sans nous sur covid19.cma-pdll.org. Tous les soirs à 20h, on vous lit une histoire et on vous présente un jeu. Le mardi et le vendredi à 19h, on chante avec vous. Et le jeudi et le dimanche à 16h, c'est la tournée générale. On vous invite à nous écouter pour notre émission généraliste. Tous les midis, c'est la criée. On crie et on lit des textes et des petits messages que vous nous auriez envoyés sur le chat ou par mail. Et puis, on enchaîne avec un livre humain, une histoire de vie qui nous est contée dans nos oreilles. Et le jeudi soir, tous les jeudis soirs sur Radio Sans Nous, c'est scène ouverte. Bientôt, de nouvelles programmations sur covid19.cema-pdll.org.